This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffre ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Et oui, 1986, mise à l'honneur. On peut l'exprimer ainsi, mais malheureusement, c'est une année de catastrophe. La plus grande catastrophe nucléaire de l'époque, avant Fukushima, ce sera Tchernobyl, dont on va parler. Ce sera aussi cette année-là où la navette spatiale Challenger va exploser en vol, 7 morts. Et puis, bien que ce soit moins conséquent, moins important pour la France, ce sera la disparition de 3 personnalités du showbiz, Daniel Balawan, Coluche et Thierry Leluron. 2 amuseurs publics, un chanteur en plein succès, contestataire par moment. Et voilà, c'est ainsi que l'année 86 va dérouler, malheureusement, ces étranges successions de catastrophe, il n'y a pas d'autre mot. Alors, en cette année-là, effectivement, Tchernobyl, première catastrophe vraiment d'une portée internationale après celle de 1979 de Fragman Island aux États-Unis, mais qui n'a rien à voir au niveau des conséquences, puisque sur la déclaration officielle, on fera état de plus de 15 000 morts. Et on peut dire qu'encore aujourd'hui, on ne sait trop exactement combien de personnes ont été contaminées par cette catastrophe-là. Et il faut dire que les autorités soviétiques ont, à l'époque, évidemment, minoré et minorisé l'ampleur de la catastrophe.
Bonsoir. C'est un accident, le premier de cette nature officiellement, un accident qui a fait des victimes. Ce sont à peu près les seuls éléments livrés par l'agence officielle TASS à Moscou sur ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche dans la centrale électrique nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, à une centaine de kilomètres de la ville de Kiev. L'agence de presse américaine UPI, citant des témoins, membres d'équipes de secours, estime qu'il y aurait plus de 2000 morts, chiffre qu'il sera évidemment très difficile à vérifier. Sur ce que l'on sait de cet accident nucléaire, voici les explications de Patrick Hester.
Une centrale nucléaire semblable à celle-ci, orgueil de la technologie soviétique. 4 fois 1000 mégawatts, inaugurée il y a 2 ans seulement et présentée comme un modèle de sécurité. Samedi après-midi, dans une salle de commande identique à celle-là, il n'aura fallu probablement que quelques heures aux techniciens soviétiques pour comprendre que l'un des réacteurs de la centrale de Tchernobyl venait de provoquer l'accident le plus grave qui puisse se produire dans une installation nucléaire. Le cœur du réacteur commençait à fondre, échappant à tout contrôle. Un réacteur situé sous le sol de ce vaste hangar, une installation différente des centrales françaises, puisqu'ici, il n'existe pas d'enceinte en béton pour emprisonner la partie atomique. Un réacteur composé de barres d'uranium, empilées dans des blocs de graphite, eux-mêmes parcourus par des milliers de tuyaux où passe l'eau du système de refroidissement. Cette eau qui fait tourner les turbo-alternateurs électriques. Une rupture des canalisations de ce circuit de refroidissement aurait entraîné la surchauffe du cœur d'uranium, provoquant l'incendie du graphite. 300 tonnes d'eau se volatilisent alors. Il est impossible de dire à cette heure comment la catastrophe a évolué ensuite, mais selon l'agence américaine UPI, le dégagement gazeux aurait tué 80 employés de la centrale, puis le nuage s'échappait du bâtiment contaminant la population avoisinante. Selon certains témoignages recueillis par l'agence UPI, 2000 personnes seraient mortes pendant leur transport à l'hôpital. Selon ces touristes finlandais en voyage à Kiev, tous les autobus de cette ville ont été réquisitionnés pour évacuer les 20 000 habitants de la zone sinistrée. Ce soir, le cœur du réacteur brûle toujours et les soviétiques ont demandé l'aide technique des Suédois et des Allemands pour éteindre l'incendie. La catastrophe n'est donc pas encore terminée. L'Agence atomique internationale de Vienne, chargée de contrôler la sûreté nucléaire dans le monde, a proposé les services de ses ingénieurs. Jusqu'ici, l'URSS ne les avait jamais laissés pénétrer dans la centrale de Tchernobyl, une centrale qui travaillait pour produire du plutonium nécessaire aux militaires soviétiques.
Il faut rappeler que, un peu, le contexte de l'époque, on est en pleine guerre froide, et il faut se rappeler également que les soviétiques ont installé depuis pas mal de temps en Iran, notamment, une centrale nucléaire, justement, et il y a eu un problème. Et par conséquent, tout le monde surveille de très près l'évolution des centrales soviétiques. Et à partir de là, évidemment, Tchernobyl, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait 4 réacteurs, 3 déjà assez anciens qui fonctionnent parfaitement. Le quatrième est un nouveau réacteur de conception tout à fait nouvelle qui existe depuis 3 ans et qui fonctionne a priori pas trop mal. Il faut donc savoir que ce réacteur, eh bien, il a une puissance de 1000 et des poussières, donc nettement supérieure aux autres, et que l'Union soviétique veut montrer sa puissance dans le domaine du nucléaire à partir de cet élément-là. En conséquence de quoi, contrairement à ce qu'on a toujours pu croire, l'accident de Tchernobyl n'est pas dû tout simplement à, on peut dire, un malfonctionnement. Il est dû au fait que ce qui paraît normal, évidemment, c'est qu'on fasse des contrôles. Eh bien, l'accident se produira suite à cette mise sous contrôle du réacteur afin de vérifier, dans le cas extrême, que se passerait-il et comment pourrait-on empêcher et enrayer immédiatement cette catastrophe nucléaire. Donc, on va volontairement provoquer une simulation d'accident de manière à faire valoir comment arriver à maîtriser cela. Alors, je ne suis pas technicien nucléaire, bien loin de là. Il faut savoir que le réacteur numéro 4, c'est une nouvelle formule qui est en fait composée d'un bloc de graphite traversé par des canaux verticaux dans lesquels sont placés des tubes de force qui renferment chacun plusieurs assemblages de combustible nucléaire. Le graphite, en fait, va assurer le rôle de modérateur et pour vraiment que puissent fonctionner les turbines, c'est tout simplement de la vapeur de l'eau qui est propulsée à l'intérieur et qui, portée à une température exorbitante, va développer de la vapeur et cette vapeur va faire tourner les turbines. Or, il faut dire aussi que, évidemment, il est nécessaire que soit maintenue une température suffisante mais pas excessive, pas trop faible non plus. C'est pourquoi, vous l'avez peut-être constaté, toutes les centrales sont entourées de pratiquement énormément d'eau qui circule. Et dans ce réacteur-là, eh bien, on va essayer justement de voir comment on peut maîtriser la température de l'eau. Alors, on pourrait croire que cet accident est dû à une défaillance technique. Pas du tout. C'est une défaillance humaine. Il faut savoir que dans tous les accidents, quels qu'ils soient, aussi bien nucléaires que non, accident d'avion dont on parle fréquemment, il faut savoir que la partie qui est due à la partie technique et non à la partie humaine est de 4%. Dans 196% des cas, c'est une erreur humaine qui provoque l'accident. Les 4% qui restent ne sont en fait compensés que par des situations où la main de l'homme doit intervenir. Et si la main de l'homme n'intervient pas, c'est la catastrophe. C'est pareil également pour les avions Dixit, les gens du BEA. Sachez donc que quand un avion s'écrase, c'est qu'en fait, eh bien, il y a eu une erreur humaine. C'est-à-dire que si on parlait du pilote, on va dire, il a donc l'information sur son tableau de bord comme quoi il y a un problème et le problème ne peut pas être résolu par la machine. C'est donc l'homme qui doit intervenir et si à partir de là il n'intervient pas, eh bien c'est le clash de l'avion. C'est aussi bête que ça et c'est pourtant ce qui arrive dans 96% des cas. On va donc revenir à Tchernobyl quand même et évidemment ce sont aussi des hommes qui sont là pour maîtriser cette alerte à l'incident. Et pendant ce temps-là, me direz-vous, eh bien, que fait le jazz dans tout ça ? Eh bien, tout simplement, il existe aux États-Unis, comme en URSS, des groupes de jazz. Le dernier en date, il s'appelle Allegro Jazz Ensemble. Il est composé de Alexander Fischer, je pense peut-être pas un soviétique pure souche à la trompette, de Vyacheslav Nazarov au trombone, Igor Bertman est au sax, Alexei Kurochkin au synthé, Nick Levinovsky au piano, Victor Voskin à la basse et Yevgeny Guberman à la batterie, plus un percussionniste, Yuri Gerbatchev et non pas Gorbatchev aux percussions. Thank you. Allegro Jazz Ensemble, on le prononce à l'américaine. Et il faut dire que le patron du groupe, c'est Nick Levinowski, le piano, avec ce In the World Part 1, une longue suite écrite donc en 86. Alors je vous ai indiqué que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un accident technique, c'est un accident humain. Les personnes, ils sont trois dans la centrale, à diriger la centrale ce jour-là. Il y aura donc un tout jeune garçon de 26 ans, Leonid Toptounov, contrôleur en chef de la centrale. À ses côtés, il y aura donc Alexandre Akimov, qui lui est le contremaître de la centrale, donc qui dirige tout le personnel, et qui en fait est un peu le commandant du navire. C'est lui qui va donc indiquer à chacun ce qu'il a à faire pendant cet exercice-là. Mais le gouvernement soviétique a détaché auprès de ces deux hommes un ingénieur en chef, spécialisé donc en nucléaire, Anatoly Dliatyov. Et alors lui, il a une particularité, c'est que c'est un gars de l'ancienne école qui a vraiment un gros problème avec ses nouveaux réacteurs. Il considère que ces réacteurs, tout aussi révolutionnaires qu'ils soient, n'ont pas effectivement la capacité qu'avaient les précédents. Et donc va s'engager entre ces trois hommes vraiment une querelle et des différends qui vont mettre en péril le monde entier. Il faut dire qu'il est prévu, donc que ces réacteurs, normalement, celui-ci notamment, doit avoir une capacité pour pouvoir fonctionner avec une tension maximale qui va de 700 à 1000 MW. Eh bien, Anatoly Dliatyov décide que lui, il va tenter l'extrême, il veut ramener la tension à 250 au lieu de 700. C'est l'exercice qui lui a été confié par le gouvernement soviétique. Et à partir de là, eh bien, il va mettre ça en action. Alors bien évidemment, vous imaginez, les autres techniciens qui, eux, sont parfaitement au courant des risques encourus, vont s'en suivre dans des discussions à n'en plus finir, et toujours dans un climat vraiment d'incertitude totale, car aucun des trois ne sait vraiment ce qui va se passer.
Мощность упала почти до 500 мегаватт.
А что с ларом?
Я отключаю локальный автоматический регулятор мощности реактора. Орден включился, но все равно мощность падает.
Продолжайте.
Что происходит? Мы же не должны опускаться ниже нормы 700 мегаватт. Это же небезопасно. Что ему скажу?
Я ему сам скажу.
Не надо мне ничего говорить.
Я все знаю сам.
Думать не твоя работа. Здесь я принимаю решение. Делай, что тебе говорят.
Я ты набрал таких наглых карасей?
Анатолий Степанович, мы и так уже опустились.
Что там у тебя?
Мощность быстро падает.
Ты что натворил, идиот? Что ты наделал? Ты же мощность упустил! У тебя же руки из задницы растут! Да помоги ты ему!
Успокойся, успокойся, не суетись. Начинаем все сначала. Успокойся.
Le ton monte effectivement et Anatoly Dliatyov n'en démord pas. Il décide qu'il faut absolument baisser cette tension à 250. À partir de là, les deux autres ingénieurs, donc Leonid Toptounov et Alexander Akimov, décident d'envoyer de l'eau dans le réacteur pour tenter d'abaisser la température. Ils envoient de l'eau et ce qui se produit est la catastrophe qui était prévue, c'est-à-dire que l'eau va pénétrer dans le réacteur, mais elle va l'arrêter. Et à partir de là, eh bien, il n'y a plus beaucoup de solutions. Il faut absolument que le réacteur redémarre. Et par conséquent, Leonid Toptounov va remettre le réacteur en marche. Mais l'eau qui arrive, effectivement, ne permet plus au réacteur de fonctionner. Au lieu d'être à 250, il est tombé pratiquement à zéro. Et en conséquence de quoi ? Eh bien, immédiatement, c'est la surchauffe. C'est-à-dire que l'eau arrive à une telle température qu'à un moment, tout simplement, eh bien, que se passe-t-il ? Le réacteur va exploser. Le réacteur explosant, il va faire exploser le toit et là vont se dégager dans l'atmosphère 800 tonnes d'eau contaminée. Les pompiers sont évidemment immédiatement alertés. Les pompiers de Tchernobyl, ils sont à peu près 80 pompiers. Et ils vont donc, on ne les a pas prévenus que tout était radioactif. Ils vont donc directement affronter les flammes de l'incendie. 39 périront immédiatement. On fera appel à des pompiers venus de Finlande, venus de partout pour tenter d'enrayer l'incendie. On y parviendra, mais c'est trop tard. Les dégâts sont tellement énormes qu'on n'imagine même pas ce qui a pu se produire, sauf peut-être des ingénieurs chimistes et des gens de la santé qui, eux, savent pertinemment que la ville qui est à côté, qui abrite dont plus de 50 000 personnes, doit être évacuée. Par conséquent, l'armée soviétique va s'approcher du réacteur. Ils vont amener avec eux 1250 autobus. La ville sera évacuée, mais le mal est fait. Les conséquences, malheureusement, vous en connaissez un peu les résultats. Et encore, Qu'en connaît-on encore aujourd'hui, ce serait bien difficile à dire. Alors, pour apaiser un peu tout cela, eh bien, on va écouter donc le pianiste Nick Levinowski dans ce « In the World Part 2 ». La virtuosité soviétique, celle de Nick Levinowski, avec ce In the World Part 2, va clôturer un peu cette partie un peu triste de l'émission. On va trouver quelque chose de tout à fait différent et on va faire appel aux cinéphiles, mais les vrais, ceux qui reconnaissent les bandes annonces. Écoutez plutôt. Complexité commune, parce que la bande-annonce, effectivement, ne dit rien à pas grand monde, à part vraiment ceux qui sont très férus en histoire du cinéma et en musique de film. Alors, eh bien, ce film-là, eh bien, je vous dirai après ce que c'est. Sachez simplement que va apparaître donc à l'écran celui qui va devenir une star internationale. Mais il faut dire que, tout simplement, eh bien, vous allez comprendre tout de suite quel est le titre du film avec cet extrait musical. Eh oui, je pense que vous avez trouvé cette fois, c'était trop facile. Take My Breath Away par le groupe Berlin, effectivement. Et apparaît à l'écran, eh bien, qui ? La star internationale Tom Cruise. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que pour ce film, Top Gun avait été pressenti des acteurs, et pas des moindres, pour interpréter Maverick. C'était tout simplement, eh bien, Travolta, effectivement, Tom Hanks ou Nicolas Cage. Et pourtant, c'est un tout jeune qui arrive, une figure qui va devenir, allez, mythique. Tom Cruise, Top Gun, l'aventure entre deux, allez, pilotes de chasse, et avec cette musique qui fera le tour du monde, qui sera presque aussi célèbre, si ce n'est plus que le film. Mais le tout fera que ce film sera au box-office pendant des années. Il va sortir aux États-Unis au mois de mai. Et le temps que la chanson arrive jusqu'en France, eh bien, le film sortira en septembre. Avec le succès que vous connaissez. On se retrouvera plus tard pour d'autres aventures, non pas de Tom Cruise, malheureusement on va revenir un peu sur les conséquences de Tchernobyl, mais tout ceci, c'est une autre histoire.
Of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
On ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport.